是寂寞吗？
C'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, pour arrêter de se faire exploiter, la faute.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fonds, vous comprenez? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits et les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui, à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Canu Info.
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, les 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, mes parents sont rentrés.
Bonsoir. Vous êtes bien à l'émission du Canu Info du lundi 1er février et on a un beau programme chargé.
Oui, on commencera par l'international où on vous parlera des manifs qui ont lieu en Russie ce week-end et le week-end dernier avant d'aller du côté du Liban pour vous parler des émeutes de la faim qui ont lieu la semaine dernière, avant de vous faire une analyse critique de la contestation du couvre-feu aux Pays-Bas.
Au National, on aura deux sujets. Un sujet sur les différentes attaques fascistes qui ont lieu dans toute la France suite aux manifs homophobes de ce week-end. Et un sujet sur la censure de L'Envolée, vous le savez, ce journal anticarcéral.
Et au local, pour finir, on commencera par un retour sur la manif contre la construction du nouveau centre de rétention à Lyon. On aura ensuite droit à un petit reportage sur la manif des livreurs et des livreuses à Lyon également. Et on finira, en avant-dernier, on lira un communiqué suite à l'expulsion violente du squat rue Frédéric Feiss à Villeurbanne. Et on finira par un deuxième reportage, cette fois-ci sur les maraudes à la frontière.
Et on commence tout de suite avec les brèves.
Oui, alors des brèves, que des bonnes nouvelles comme d'habitude. Alors on va commencer par la Birmanie, un petit sujet à l'international. Ça date de ce week-end, l'armée vient de renverser le pouvoir d'Aung San Suu Kyi, Pépouze, en déclarant immédiatement l'état d'urgence et le maintien au pouvoir pour un minimum d'un an. Certes, on ne va pas du tout regretter l'ancienne prix Nobel de la paix qui a participé au massacre des Rohingyas depuis qu'elle a pris le pouvoir en 2016 et au déplacement forcé de ces derniers d'au moins 700 000 d'entre eux et elle. Les Rohingyas, pour rappel, c'est une minorité musulmane persécutée depuis l'indépendance de la Birmanie. Mais ce coup d'état militaire n'annonce rien de mieux, évidemment, pour les Rohingyas, puisque c'est l'armée qui les a massivement massacrés ces dernières années, et plus largement pour tous les exploités de Birmanie, puisque c'est un virage ultra-autoritaire et sécuritaire qui s'annonce. Deuxième point, l'Autriche. Grosse manif d'extrême droite à Vienne cette semaine. 10 000 personnes au moins à l'initiative du FPO. Alors le FPO, on vous en a déjà parlé également. Un parti d'extrême droite ouvertement nationaliste, islamophobe, raciste, homophobe. Et toutes ces belles pensées politiques. Un temps allié à l'actuel chancelier Sébastien Kurz, toujours au pouvoir. Dorénavant dans l'opposition, ce puissant parti a réussi à fortement mobiliser ce dimanche et faire venir tous les groupes néofascistes et néo-nazis agrémentés de hooligans d'extrême droite contre officiellement les mesures restrictives sanitaires. Alors on souhaite bon courage aux camarades autrichiens et autrichiennes qui doivent l'avoir bien mauvaise qu'autant de fachos puissent manifester tranquillou dans les rues de Vienne. Et pour finir, on parle un peu national, on vous en a déjà parlé aussi plusieurs fois, la grève des salariés de Grand Puy de la raffinerie continue cette grève pour faire face au greenwashing insupportable d'hypocrisie de Total qui menace toujours 700 salariés sur le site. Ce 29 janvier, des salariés de Grand Puy sont allés rencontrer leurs homologues à la raffinerie du Havre, la plus importante de France, qui ont répondu présents et présentes. L'objectif étant de, je cite, « rallumer les feux de la solidarité entre raffineries ». Et on avait déjà vu ça avec Fezzin ces dernières semaines. Pour information, il existe toujours des cagnottes en ligne. N'hésitez pas à les soutenir, ces grévistes.
Et tout de suite, on passe à...
International.
Avec un premier sujet sur la Russie.
Et oui, en Russie, ce week-end, des dizaines de milliers de personnes ont à nouveau manifesté après avoir manifesté le week-end précédent. Et ce week-end, elles étaient encore plus nombreuses et nombreuses que le week-end précédent. Les menaces et les dizaines d'arrestations préventives qui ont été organisées par le gouvernement Poutine ne les ont pas dissuadées de crier « Liberté, Poutine démission et va-t'en, va-t'en ». Et plus que le nombre total de manifestantes et de manifestants, c'est la multiplication des rassemblements dans les dizaines de villes de toute la Russie qui constitue en fait une alerte sérieuse pour le pouvoir. Face à l'ampleur de cette mobilisation, Poutine et son gouvernement ont fait le choix d'une répression violente. À Moscou, où le rassemblement était appelé place Pouchkine, la police a été massivement déployée et le quartier entièrement bouclé. Des dizaines de manifestantes et de manifestants ont été interpellés avant même le début du rassemblement et ce sont près de 5000 personnes qui ont été arrêtées. Et il s'agit donc ainsi du plus grand nombre d'arrestations durant des manifestations de l'opposition enregistrées dans toute l'histoire de la Russie moderne. Alexei Navalny, qui a appelé aux manifestations et qui est le symbole de la répression du gouvernement autoritaire du Kremlin, avait jusqu'alors une audience limitée, jusqu'à il y a deux semaines. La tentative d'assassinat par empoisonnement qui a été organisée par une équipe secrète du FSB, donc les services secrets russes en août 2020 dernier, puis le scandale international qui s'en est ensuivi et son choix de rentrer à Moscou au mois de janvier pour défier directement Vladimir Poutine lui ont donné une stature nouvelle. Alors pourquoi représente-t-il une menace directe pour Poutine ? Son équipe a mis en ligne assez récemment une enquête vidéo qui vise directement le président russe et la corruption à grande échelle qui l'entoure. Ce documentaire, Un palais pour Poutine, qui totalise aujourd'hui près de 100 millions de vues sur YouTube, explique en effet comment a été construit un palais de luxe délirant de plus de 18 000 mètres carrés pour la somme astronomique de 1,3 milliard de dollars grâce à la mise en place de montages financiers opaques réalisés par une série de personnages qui dirigent aujourd'hui des compagnies pétrolières ou gazières publiques. Des hommes qui sont des amis ou des proches de Poutine depuis l'époque soviétique lorsqu'il était agent du KGB en Allemagne de l'Est. C'est donc un véritable système mafieux qui est aux mains des principaux groupes industriels du pays et qui s'en distribue les richesses faramineuses. Le gouvernement russe fait en tout cas le pari que le soutien que ne manqueront pas d'apporter les pays occidentaux à cet opposant pourrait faire basculer une partie de l'opinion publique dans son camp et donner du poids à sa théorie selon laquelle il serait en fait un agent infiltré des États-Unis. Mais en Occident, les intérêts contradictoires sont plutôt à l'ordre du jour et ceux qui font des affaires en fait sur le sol russe voient aussi les sanctions d'un mauvais œil. Il est vrai qu'Alexei Navalny fera un excellent président pour les puissances occidentales qui ont tout intérêt à le soutenir. Celui-ci est connu en Russie depuis une quinzaine d'années pour son combat contre la corruption, mais il ne parle jamais de son programme politique car il sait très bien qu'il perdrait immédiatement une partie de ses partisans. Il se concentre au contraire sur la critique du pouvoir russe et sur la lutte contre la corruption. En 2013, lorsqu'il était candidat aux élections municipales à Moscou, il avait ainsi axé sa campagne sur la dénonciation des migrants, qu'il décrivait à l'époque comme des délinquants. Bref, Alexei Navalny est un opportuniste ultranationaliste qui prend la forme d'un populiste utilisant un discours anticorruption politique et qui ne ferait que perpétuer l'oppression du peuple russe de manière certainement plus pernicieuse que ce que ne le fait Poutine aujourd'hui. Justement, le peuple russe, pris en tenaille entre une opposition factice et un pouvoir oligarchique et répressif, que peut-il espérer ? À première vue, les manifestations actuelles pourraient être assimilées à n'importe quelle autre manifestation organisée par l'opposition politique lorsqu'un candidat important de l'opposition est arrêté. Mais il ne faut pas oublier que le parti le plus populaire de l'opposition aujourd'hui en Russie est en réalité le Parti communiste russe, dont les rangs étaient bien représentés dans la rue hier. Et l'énergie qui se dégage de ces manifestations semble être beaucoup plus puissante que une simple adhésion à la figure de Navalny. À Tchita, par exemple, les flics ont été mis en déroute. À Perm, la foule a applaudi les anarchistes qui ont parlé de rébellion, d'autonomie et de solidarité contre la répression. Ailleurs, des personnes ont fait barrage à des camions de police, tandis que dans une autre ville, elles désarrêtaient des manifestantes. Dans une rue, un homme a cogné un flic, Dans une autre, les gens chantaient « Liberté, liberté » alors qu'une femme arrachait une matraque de la main d'un policier. L'une des tactiques originales qui émerge ces derniers jours et qui est sans doute l'une des plus intéressantes est l'attaque à coups de boule de neige contre la police qui a renforcé la confiance, maintenu la tension tout en étant une escalade avec laquelle les gens étaient à l'aise. Dans une des vidéos qui a circulé sur Telegram, on peut même voir une bataille de boule de neige se transformer en une véritable attaque contre un véhicule portant une plaque d'immatriculation officielle de l'État russe. Pour le peuple russe anticapitaliste et anti-autoritaire, l'enjeu semble donc être de prendre la tête du mouvement d'opposition à Poutine qui se lève dans tout le pays, tout en résistant à la répression de l'État. Pas facile, me direz-vous, mais les Russes sont rusés.
Après cette habile transition, on va passer à notre deuxième sujet qui concerne les émeutes de la faim au Liban.
Ouais, au Liban, rebelote, donc de nouvelles émeutes de la faim. On vous en a déjà parlé plusieurs fois depuis octobre 2019. La lutte de classe fait rage au Liban. En octobre 2019 donc, et les mois qui ont suivi, la plupart des grandes villes du pays se sont révoltées, et pas qu'un peu, contre l'ensemble de la classe politique, grosso modo la même depuis Giscard d'Estaing. Systématiquement soutenu d'ailleurs par tous les présidents français depuis, le Liban est un terrain de jeu de l'impérialisme français au Moyen-Orient et ça date pas d'hier. Cette classe politique est ultra corrompue et détourne massivement les fonds fournis par le FMI, le Fonds Monétaire International, tout en appliquant de manière implacable des politiques d'austérité depuis la crise de 2008-2009. Les premiers ministres défilent et les inégalités explosent. Aujourd'hui, 2% des revenus des plus riches correspondent à 60% des plus pauvres. Et la pauvreté touche 75% de la population. Le premier confinement, en avril 2020, avait fait basculer le mouvement social libanais en véritable émeute de la faim. La pénurie alimentaire se répandait absolument partout. alors qu'en parallèle, les services de santé, d'éducation, d'eau et d'électricité manquaient déjà cruellement. En n'oubliant pas également le désastre social et humain provoqué par l'explosion qui a ravagé la capitale libanaise, on s'en souvient, en août 2020, 200 morts, 6000 blessés et une ville complètement ravagée, issue des manquements profonds et de la corruption des élites politiques, avec en toile de fond, et ça c'est un peu récent, une ingérence syrienne, une fois n'est pas coutume. Fin août, de nombreux ministres avaient été poussés à la démission pendant que le roi Macron défilait en sauveur de la population libanaise. Mais au Liban, personne n'est dupe. La France n'intervient pas politiquement et financièrement pour défendre ses propres intérêts. Nombreux, très nombreux au Liban, avec en ligne de mire de très nombreuses privatisations au bénéfice du patronat français, sans même parler des nombreuses ventes d'armes. Au Liban aujourd'hui, c'est toujours Michel Aoun qui est président de la République. Maronite comme le veut la Constitution, allié du Hezbollah, organisation paramilitaire fondamentaliste chiite. Le Premier ministre, c'est toujours Hassan Diab depuis un an. Sunnite, comme le veut la Constitution, homme d'affaires, ultra-corrompu lui aussi, qui a succédé à Saad Hariri, homme d'affaires également, ultra-corrompu, qui va d'ailleurs d'ici peu remplacer Hassan Diab. Bref, rien ne change au Liban, et ça le peuple l'a bien, très bien compris, au-delà des tentatives d'instrumentalisation des conflits interconfessionnels. C'est pourquoi depuis plusieurs jours à Tripoli, notamment, tous les soirs, des habitants bravent les interdictions de sortir et embrasent les rues, s'affrontent avec les forces de l'ordre. Le confinement libanais est l'un des plus stricts au monde. Interdiction totale de sortir de chez soi, même pour aller faire des courses. Même pour aller faire des courses. Dans un pays qui crève la dalle et où les pénuries alimentaires sont régulières, l'ensemble des régions les plus pauvres est en train de se soulever. La violence des affrontements de ces derniers jours a déjà fait un mort et plus de 200 blessés. La violence de la crise économique n'en est malheureusement qu'à ses débuts. C'est pour toutes ces raisons que le peuple se soulève, et il a bien raison, ce peuple libanais.
Et oui, il a bien raison, et maintenant on va prendre un peu de hauteur en se dirigeant vers les Pays-Bas, où la contestation que le couvre-feu explose.
Et oui, depuis deux semaines, des manifs émeutiers ont lieu aux Pays-Bas contre l'instauration d'un couvre-feu entre 21h et 4h30 du mat. Dans ce territoire du consensus politique et social par excellence, cet épisode insurrectionnel peut sembler surprenant. Partis de la ville portuaire de Rotterdam, les émeutes se sont succédées et répétées dans une dizaine de villes comme à Geleen, près de Maastricht, d'Amsterdam et à Eindhoven. Bilan répressif, plus de 400 arrestations en 3 jours, entre le lundi 22 et le jeudi 25. À quelques semaines d'élections législatives, cette protestation qui prend la forme de pillages et d'affrontements violents avec les flics s'oppose à la fois aux mesures liberticides et à la politique du gouvernement menée par le Premier ministre libéral sortant Mark Rutte et son ministre des Finances qui est lui ultra-libéral. En effet, on peut lire ces événements de révolte comme une conséquence des conditions sociales créées par 10 années de gestion libérale par une prétendue élite de la Randstadt. La Randstadt est cette conurbation qui est le poumon économique et le centre politique du pays. Et même si certaines actions isolées nous semblent problématiques et contre-stratégiques, comme par exemple l'incendie d'un centre de dépistage dans le port d'Urk, malgré cela, la coloration idéologique de ces révoltés n'est pas fixée. Et elle contient, de toute évidence, un potentiel révolutionnaire. Il est d'ailleurs très peu probable que ces nuits d'émeutes aux Pays-Bas aient été menées par des fachos, puisque Geert Wilders, candidat du parti d'extrême droite et islamophobe qui est appelé Parti pour la Liberté, et bien ce Wilders a comparé les émeutiers à, je cite, « la racaille souvent immigrée qui détruit notre pays ». Le parti des fachos a même prévenu qu'il déposerait au Parlement une requête pour recourir à l'armée, rien que ça, afin de rétablir l'ordre. On dirait donc bien que les fachos néerlandais ne considèrent pas les révoltés comme leurs alliés. Ces nuits d'émeute semblent donc plutôt une réaction aux conséquences sociales, on l'a dit, de la gestion sanitaire par le gouvernement qui enchaîne des mesures d'austérité et qui accroît la vulnérabilité sociale et psychologique de beaucoup de personnes. Plus largement, le couvre-feu, l'outil du couvre-feu, est une mesure sécuritaire et qui est lucidement perçue comme une étape supplémentaire vers l'acceptation généralisée des pouvoirs répressifs. Il restreint les droits fondamentaux en renforçant un régime coercitif de surveillance et de criminalisation, notamment envers les personnes les plus marginalisées et invisibilisées. Face à la colère grandissante, donc, n'hésitons pas à venir sur le terrain pour ne pas laisser l'extrême droite s'en emparer, comme c'est déjà malheureusement le cas en Autriche, un peu en Italie et en Allemagne par exemple.
Et on repart tout de suite en Russie pour écouter un petit rap féministe de la rappeuse Bigma, et ça s'appelle Russian Female.
Я вижу только слезы и крики. Я вижу от людских глаз отсвечивают блики. Блики не лучей, солнце даже не эмоции. Только стеклянный взгляд от ядовитых порций. Во всех погоне за счастьем берут эту отраву. По грамму убивать медленно, подобно удаву. Копая канаву своими же руками, они винят Бога, что он не помогает. Среди грязных стен и скользких лестниц это пиздец народу стоит, покуда в месяц. И жильцы дома, которые все время ищут пойло, а то с коричневым куском вам останется довольным. Каждый день мутки, перебегаясь на попутки. В толстых куртках слоя модных, это не шутки. Проводим сутки, убивая время час за часом. Под напасом, при этом делая шашкасом. Мы смотрим на мир под градусом или через дым. Лет пять назад не думала, что каждый день будет таким иным. Представляла будущее интереса, но прошел переворот этого процесса. Это известно детям, известно взрослым. Также с телеэкранов вам засоряет мозги. Протесты, движения. Жизнь без наркотиков для многих это стало антибиотиком. Говори, говори, не говори. Я научилась подавлять себе критику у других. Выросла на ветрах, я не согрета деньгами, все по понятиям. Гордость всегда сохраняла, когда мама вкалывала, городала во дворах, о заботе мало знала, были нервы и страх. Улицы стоят, но я росла, от них осталась память, печать в моих глазах. Похоронила отца, его вину взять на себя, молилась по ночам, чтоб это был последний раз. Но жизнь несправедлива, все чаще била в подых, через неделю забрав еще двоих близких. И где же истина, скажи, прежде чем кинуть в меня камень, не прогремит ли мой выстрел так неожиданно и рано? А ведь слезы мне лить уже поздно, нужно быть сильной, не задавать лишних вопросов. Сколько боли подарила мне судьба, а кто-то ноет, а я за жизнь благодарна. Имею нравы, имею свое мнение, и никогда не стану плыть по вашему течению. А ты слушай, стой в стороне и слушай. Я не кричу, что лучше, у меня готов для тебя ужин. Посмотри вокруг, держи в себе силы. Везись, сука, может посадить тебя на вилы. Посмотри вокруг, держи в себе силы. Везись, сука, может посадить тебя на вилы. Смотри вокруг, держи в себе силы. Везись, сука, может посадить тебя на вилы. Посмотри вокруг, держи в себе силы. Везись, сука, может посадить тебя на вилы.
Vous êtes toujours sur le Canu Info du lundi, la plus rebelle des émissions de la plus rebelle des radios. Et on passe tout de suite.
National.
Au national, donc.
Au national, on va vous parler des attaques fascistes qui ont eu lieu ce week-end dans toute la France suite aux manifs homophobes.
Ouais, alors pas besoin de vous présenter la manif pour tous, ce regroupement de réactionnaires, néofascistes, homophobes, qui sévit en toute impunité depuis 2012, enfin presque toute impunité, qui brasse donc des républicains jusqu'aux néo-nazis. Ce week-end donc, grande mobilisation nationale homophobe dans presque toutes les villes de France, au moins toutes les grandes villes, et ça a malheureusement plutôt bien marché, encore une fois. Alors, à chaque fois ou presque, les services d'ordre ont été dirigés par des groupuscules néofascistes, néo-nazis, identitaires, qui se sont, à plusieurs reprises, donc, attaqués aux contre-rassemblements qui ont lieu dans un certain nombre de villes. Alors, j'ai trouvé ces informations sur le site de Nantes Révolté, qui a fait un bon résumé de ce qui s'est passé. Donc, les villes principales sont Nîmes, Dijon, Strasbourg, Nice, Lyon, Bordeaux et Rennes. Alors, à Dijon, une quinzaine de fascistes ont attaqué les personnes rassemblées à 13h ce dimanche. Une vidéo montre l'agression, les attaquants hurlant « Cette ville est aux Français, dégagez bande de bâtards ». Plusieurs personnes ont été frappées au sol, au moins une personne a reçu 2 jours d'ITT. Nos camarades du média Dijon DTR expliquent que les forces de l'ordre postées à proximité de la place ont laissé faire. Et plus tard, ces mêmes policiers ont gazé le rassemblement LGBT et féministe. En fin de manif, la même bande fasciste a de nouveau tenté d'agresser plusieurs personnes. En ce qui concerne Angers, l'extrême droite était bien présente en marge de la manif pour tous. Une vingtaine de néo-nazis sont sortis avec des armes de leur local, l'Alvarium, au cœur de la ville. Des projectiles ont été lancés par les fachos et la police a généreusement gazé les antifascistes. Il y a 3 semaines à Angers, on le rappelle, 2 lesbiennes avaient été agressées par des homophobes, probablement du même groupe politique. À Rennes, une trentaine de militants pétainistes de l'Action française, voire royaliste, avaient fait le déplacement pour la manif pour tous et ont pris la pause pour les réseaux sociaux. Ils ont été empêchés d'attaquer les antifascistes, les féministes et les LGBT par les cordons policiers. À Nice, un groupe néo-nazi baptisé Zoulou Nice, c'est très joli, a revendiqué l'attaque de militants et militantes antifascistes à qui ils ont arraché des drapeaux. À Nîmes, une vidéo montre une bande de néo-nazis, néo-fascistes chargés en direction d'un groupe d'opposants en criant « Europe, jeunesse et révolution ». Que du bon. Et pour finir, évidemment, à Lyon, la capitale des fascistes, un cortège composé de néo-nazis, de Lyon populaire probablement, d'identitaires, de génération identitaire et de royalistes, qui a suivi une mobilisation quand même bien suivie avec au moins 2000 manifestants pour la manif pour tous, c'est-à-dire plus que pour la loi sécurité globale la veille. Eh bien, ce groupe a attaqué un groupe de manifestants LGBT, féministes, antifascistes, avec des coups de ceinture, des bâtons, des tournevis, et également volé des drapeaux arc-en-ciel, ce qui rappelle tristement les attaques subies par les mêmes, faites par les mêmes individus pendant le mouvement des Gilets jaunes. Alors, je vous lis également ce qu'a rajouté Nantes Révolté hein, sur son site. Tout cela est revendiqué publiquement sur un groupe d'extrême droite en ligne, qui commémorait notamment ce 30 janvier l'arrivée au pouvoir d'Adolf Hitler en 1933, où publiait la version française d'un hymne de la SS. Pour finir, il précise, et je le cite, je suis bien d'accord, il n'y a rien à attendre des autorités, organisons-nous face au fascisme.
Et pendant que les fachos sévissent en toute impunité, le journal anticarcéral L'Envolé, lui, se fait censurer.
Oui, scoop, l'administration pénitentiaire, l'AP, intente un procès pour diffamation et censure L'Envolé, ce journal anticarcéral qui n'a jamais cessé de soutenir les révoltes des prisonniers et des prisonnières et de dénoncer la violence du système carcéral en général. Pour rappel, L'Envolé est à la fois une radio hebdomadaire qui donne la parole aux détenus et à leurs proches et un journal de solidarité avec les prisonniers et prisonnières. Dénonçant la prison comme un outil structurellement raciste de maintien du contrôle social par l'État, L'Envolé est également un lien entre l'intérieur et l'extérieur, et le journal est distribué gratuitement aux abonnés dans les prisons françaises depuis maintenant 20 ans. Mais le 4 janvier dernier, la direction nationale de l'AP, donc de l'administration pénitentiaire, a décidé d'interdire la diffusion de L'Envolé dans toutes les prisons de France suite à l'apparition du numéro 52. Mais alors pourquoi ? Eh bien, pour avoir dénoncé les violences des matons. Non. Officiellement, pour incitation à la haine envers le personnel pénitentiaire. Entendez par là, pour avoir relayé les paroles des proches des victimes en prison qui questionnent légitimement la mise en cause des matons dans la mort subite de détenus sans problème de santé connus, mais qui sont quand même retrouvés morts dans leur cellule sans explication. En gros, pour avoir dit la vérité. Pourtant, de nombreux témoignages accablent les violences des matons depuis des années. Insultes, tabassages, enfermements au mitard arbitraire, tortures psychologiques et meurtres, souvent maquillés en suicide. Récemment, c'était Idir qui est mort au mitard de la prison de Lyon alors qu'il devait être libéré dans les 2 semaines suivantes. Avant lui, c'était Jawad et Taoufik. Et dernièrement, c'est Jimoni en état de mort cérébrale après avoir été passé à tabac par des surveillants de la prison de Meaux. D'ailleurs, on rappelle qu'une cagnotte en ligne pour le soutenir, lui et ses proches, existe et qu'on va mettre sur le blog de notre émission. Dans son communiqué, L'Envolé explique et analyse, je cite, qu'à travers cette censure et cette plainte de l'administration pénitentiaire, il s'agit de réduire au silence cet espace de libre expression, d'information et d'élaboration collective d'une critique de la prison. Il faut donc savoir qu'aujourd'hui en France, il est condamnable de décrire le quotidien carcéral, de dénoncer les conditions de détention et de lutter contre l'enfermement. Il est condamnable de dire que simplement la prison tue. Force et soutien à l'envolée, liberté pour tous et toutes les prisonniers, et enfin, que crève la tôle.
Ça c'est bien dit. Et tout de suite d'ailleurs, on va vous mettre une petite chanson assez récente d'une personne relativement jeune.
Je crois qu'il est, c'est un morceau qui n'est pas encore sorti d'ailleurs.
Ouais, ouais, qui sort la semaine prochaine, donc elle s'appelle Dominique Grange, vous ne devez pas connaître, hein, et ça s'appelle « Abat l'état policier ».
Que la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup. Face aux barbous, aux sportifs, face à ce dispositif, nous crions assis par terre, des Beaux-Arts jusqu'à Nanterre. Êtes reconnaissables, vous les flics du monde entier, les mêmes imperméables, la même mentalité. Mais nous sommes de Paris, de Prague, de Mexico et de Berlin à Tokyo, des millions à vous crier.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est le Canu Info du lundi 1er février. Vous venez d'écouter « Abat l'état policier » de Dominique Grange qui va sortir la semaine prochaine. Et on enchaîne tout de suite avec le...
Local.
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 Et on commence au local avec un retour sur la manifestation contre la construction du nouveau centre de rétention à Saint-Exupéry.
Oui, samedi dernier a eu lieu une manifestation organisée par le Génépi, le CSP 69 et le collectif Lyon Anticra pour exiger l'arrêt de la construction du nouveau centre de rétention à Lyon-Saint-Exupéry et surtout la fermeture immédiate de tous les CRA. On rappelle, hein, les CRA, c'est les prisons pour personnes sans papier. À cette manif, il y a eu 250 personnes, des collectifs de CSP et Anticra venus de plusieurs autres villes de France, notamment de Marseille et de Grenoble, pour former un cortège assez énergique. Une belle marche donc, malgré la pluie, avec des étapes symboliques, puisque le cortège est passé devant la PAF, devant le tribunal et devant la PREF, trois acteurs essentiels dans la machine à expulser, qui ont donné lieu donc à des prises de parole, qui ont expliqué leur rôle et qui les ont dénoncés. L'ouverture du nouveau CRA est prévue pour 2022 à Lyon, on le rappelle. Les travaux ont sans doute pris un peu de retard, mais ils sont en cours. Et cette construction à Lyon n'est évidemment pas due au hasard, puisque le CRA actuel était le seul d'une place qui réserve 140 places d'enfermement. C'est le seul CRA de toute la région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui signifie que c'est une région de passage pour beaucoup d'exilés. Toute personne donc arrêtée à la frontière avec la Suisse ou l'Italie par exemple peut y être enfermée. Le projet du nouveau CRA, qui se situe de l'autre côté de l'aéroport, doublera les capacités d'enfermement et d'expulsion pour la région. C'est bien la politique menée par l'État depuis plusieurs années, multiplier les rafles et les arrestations, augmenter les places en rétention et les expulsions. Tout ça pour réprimer toujours plus les personnes sans papier plutôt que de les régulariser. De plus, ce projet va coûter plus de 20 millions d'euros à l'État. Le terrain sera loué à Vinci pour 100 000 euros par an et c'est le géant du BTP Eiffage qui s'occupe du chantier avec plein d'autres entreprises qui font ainsi leur business sur l'enfermement des personnes sans papier. Ni construction, ni expulsion et à bas les cras.
Et on enchaîne avec un petit reportage. Ouais, raconte-nous.
Un reportage sur une autre manif qui a eu lieu la semaine dernière à Lyon, en l'occurrence la manif des livreuses et des livreurs de Deliveroo et Uber Eats, et qui s'est déroulée donc vendredi midi, une manif à vélo qui est partie du centre commercial de La Part-Dieu pour se rendre jusqu'aux locaux de Uber Eats situés non loin de là, et en faisant quelques haltes sur le chemin, notamment devant des grosses enseignes de bouffe à emporter comme King Marcel. Une fois arrivés devant les locaux Uber Eats, la cinquantaine de livreurs et de livreuses qui étaient présentes et qui étaient mobilisées ont demandé à avoir un rendez-vous avec la direction, ce qui leur a été refusé, alors que c'était pourtant l'heure de la pause déjeuner. Voilà donc un petit reportage sur cette manif.
Livreurs en colère, 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 livreurs en colère.
Là aujourd'hui nous vivons devant le local de Uber pour leur montrer qu'on est là, qu'on est livreur, qu'on existe, qu'on n'est pas arrêté de cette exploitation moderne de livreur. On est entrepreneur, mais c'est pas vous qui décidez notre vie. Bonjour, c'est Mohamed, je suis ancien livreur de Deliveroo. J'ai travaillé pendant un an avec eux depuis septembre 2017 jusqu'à septembre 2018. Finalement, ils m'ont viré à mon compte à cause de mon pièce d'identité, parce qu'au début, ils m'ont accepté avec le passeport algérien. Et du coup, ils m'ont profité de moi, ils m'ont exploité et tout. En plus, j'étais en règle, j'ai fait mes cotisations, j'ai fait mes déclarations au niveau de l'URSSAF. Ce que je gagne avec Deliveroo, je le déclare. Et finalement, ils m'ont viré à cause de ça. Et c'est pour ça que je suis en train de déposer en plein au Prodome pour récupérer mes droits. Je dois acheter le matériel, le vélo, le casque, les vêtements, les équipements, tout ce qui concerne, tout ce qui a besoin pour notre activité, c'est nous qui payons. Et par exemple, la plateforme Uber Deliveroo, ils donnent rien du tout, même leur sac, c'est nous qui payons. Du coup, nous, c'est eux aussi qui décident le tarif de livraison. Nous, c'est notre choix si on est d'accord de faire cette livraison ou pas. Mais en même temps, si tu as par exemple, tu fais 3 ou 4 commandes, ou tu annules 3 ou 4 commandes, et tu me verras, tu bloques ton compte à cause de ça.
Depuis des semaines, ni Uber ni Deliveroo n'ont daigné répondre aux revendications légitimes des livreurs en lutte. Pourtant, les livreurs se sont depuis organisés dans de nombreuses villes. Et la grève gagne du terrain aujourd'hui en France, partout, comme à Toulouse, à Bordeaux, à Nantes, à Limoges avec la CGT, ou encore ici à Lyon. Dans la lutte, nous construisons l'unité. En refusant de jouer la division des travailleurs qui ne sert qu'au patronat, comme avec nos collègues et camarades sans papier qui sont à nos côtés dans la lutte. Nous exigeons aujourd'hui de meilleures rémunérations, mais également de nouveaux droits comme l'arrêt des blocages de comptes.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios. C'est toujours le Canu Info du lundi 1er février. Et tout de suite, un autre reportage.
Et oui, on part du côté de la frontière franco-italienne où la répression se durcit. Alors que Macron avait annoncé le 5 novembre dernier le doublement des effectifs de la PAF à la frontière pour, je cite, « lutter contre le terrorisme ». Tout simplement, oui.
Ouais, ouais.
Et par exemple, ce qui a entraîné qu'un enfant qui a été récupéré par... dans la montagne par les secours, en réalité, la gendarmerie, du mois de janvier, a été amenée à la PAF.
On rappelle que la PAF, c'est la police aux frontières, qui gère aussi les centres de rétention dont on parlait avant. Et on écoute...
Cet enfant en détresse a été amené à la PAF au lieu d'être tout simplement amené dans un hôpital comme n'importe quelle personne un minimum sensée l'aurait fait. Et donc on écoute ce reportage avec des maraudeurs et des maraudeuses de Briançon.
Radio Canu. Entretien.
Alors, donc moi je parle là dans ce micro en tant que maraudeur. Sans toutefois représenter le collectif de maraudes qui existe. Nous sommes à Briançon, donc au pied du col, entre autres, mais au pied du col de Montgenèvre, qui symbolise du coup la frontière avec l'Italie.
Je m'appelle Juliette, je suis originaire de Briançon et je fais des maraudes avec tous migrants et médecins du monde. Donc, ils ont mis en place une unité de mobile de mise à l'abri.
Les maraudes existent depuis 5 ans. Là, ça fait 5 ans qu'il y a cette route migratoire qui est apparue dans cette montagne. Qui sont les gens qui font des maraudes? C'est un petit peu une espèce de coalition d'un peu tous les acteurs politiques qu'il y a dans le Briançonnais. Tous migrants et médecins du monde, des personnes qui ont monté le refuge, énormément de personnes qui sont plutôt auto-organisées. Il y a quand même une dynamique collective portée par plein de gens différents qui est vachement intéressante.
Et du coup, on vient en aide aux réfugiés qui, une fois qu'ils ont passé la frontière, se retrouvent dans les alentours de Montgenèvre, dans des conditions pas toujours simples, étant donné qu'il y a de la neige, qu'il fait froid et que c'est dangereux.
Alors une maraude, c'est pas exactement le même terme qu'on peut retrouver en ville, par exemple. Ici, les maraudes consistent à aller donc en montagne, donc plus précisément sur le col de Montgenèvre, pour essayer de récupérer des personnes qui pourraient être en situation de détresse quand on les retrouve sur les pistes de ski, sur la descente de côté français.
Il y a des soirs où on monte et on croise personne, et des soirs où on croise beaucoup de gens. Depuis le mois de septembre, l'unité mobile de mise à l'abri, elle a permis de mettre à l'abri presque 200 personnes.
Il y a eu plusieurs morts, donc de personnes qui sont décédées principalement à cause du froid, ou en tout cas de situations précaires, dans des conditions climatiques qui sont quand même hyper dures. Là, on a eu des moins 20 degrés, par exemple, cet hiver. Et on parle des décès, mais il y a, à côté de ça, énormément de personnes qui arrivent en France, qui arrivent à Briançon, qui avec des membres congelés. Plus ce qu'on a tendance à oublier, mais je pense qu'il n'est pas négligeable, c'est toute la souffrance psychologique. Parce que c'est une énième étape sur leur route migratoire et pas des moindres, quoi, de franchir un col de montagne en plein hiver avec des chasses à l'homme, ni plus ni moins, qui sont du coup organisées par la police. On ouais. essaye aussi d'être là pour montrer qu'arriver en France, c'est pas forcément qu'être accueilli par un cordon de policiers, quoi. Qu'à Montgenèvre même, donc ça va de la police municipale à la police nationale qui est représentée du coup par la PAF, police aux frontières, des pelotons de gendarmerie mobile, le GPHM qui a une posture un peu particulière parce que fait du sauvetage rattaché à la police. Et en plus de ça, mine de rien, toutes les personnes qui peuvent plus ou moins participer à ça par de la délation. Le chauffeur de bus qui dit aux personnes de la PAF le nombre de personnes noires, par exemple, qu'il a dans le bus. C'est le passant ou l'habitant du coin qui appelle la PAF parce qu'il y a une famille d'Afghans dans la cave qui se réfugie parce qu'ils sont glacés. Voilà. Il y a de ça une grosse année ou deux. En tout cas, voilà, on a vu arriver des personnes venues d'Iran et d'Afghanistan, très principalement. Alors qu'avant, c'était beaucoup de personnes, plutôt personnes seules, originaires d'Afrique, d'Afrique de l'Ouest, beaucoup de Soudanais qui passaient. Et alors maintenant, ces personnes venues d'Afghanistan ou d'Iran se déplacent beaucoup en famille. C'est pas exactement les mêmes motifs de départ, peut-être que ça s'explique comme ça aussi, mais en tout cas, il y a voilà, des personnes qui arrivent en famille avec les enfants jusqu'aux grands-parents, donc avec vraiment toutes les tranches d'âge représentées, qui ont beaucoup plus de mal à se déplacer en montagne et qui, du coup, sont quand même très fortement attrapés, emprisonnés et refoulés en Italie par les diverses polices quoi, présentes à Mont-Genève. Et après, la réponse de l'État, elle serait plutôt sur une militarisation. Voilà, on va crescendo sur de plus en plus de personnel mobilisé, de plus en plus de moyens techniques, allant du drone à des espèces de radars. Je ne saurais pas très bien en parler, ça a l'air assez complexe comme matériel. Donc de plus en plus de véhicules et de moyens quoi, qui sont d'une manière ou d'une autre déployés quoi, pour arrêter ces gens. Du coup, c'est un peu ces deux options. C'est donc soit des gens à mobilité réduite, donc pour plein de raisons différentes, qui prennent des sentiers plutôt en vallée, donc qui se font énormément arrêter. Donc on récupère des fois à Briançon des gens qui sont vraiment lessivés par exemple un mois de tentative de passage par la route, hein, bien souvent, ou par des chemins vraiment visibles de tout le monde. Donc voilà, là il y a des conséquences quand même, je pense, psychologiques assez fortes. Et après, l'autre cas de figure, du coup, ça va être plutôt des personnes en bonne santé physique, seules ou à deux, ou des fois qui se font un compagnon momentané de voyage, et qui, du coup, seraient plus susceptibles de prendre des chemins complètement en dehors des sentiers battus, plutôt par les hauts de montagne. Alors là, des risques, il y en a plein. Il y a le risque de se perdre, il y a le risque d'être pris dans une avalanche. Donc j'entends de plus en plus de personnes qui arrivent à Briançon après avoir passé 30 heures en montagne dans des endroits qu'ils connaissent pas. Donc voilà, là il y a des risques plus évidents, on va dire. Et les personnes qui sont mortes auparavant, certaines d'entre elles sont passées par ont subi du coup des baisses de température hyper prolongées qui les emmènent à mourir quoi.
Bah, les relations avec les forces de l'ordre, c'est quand même assez tendu. Et il y a une certaine pression, en fait, encore plus avec ces histoires de couvre-feu et de confinement, au niveau des déplacements.
J'ai toujours vu une répression, un peu une répression du quotidien. Donc des amendes pour des clignotants et des défauts de petites vignettes d'assurance et je ne sais quoi. Donc c'est beaucoup d'amendes voilà qui tombent de manière complètement aléatoire. Ces derniers temps, la nouveauté, c'était les amendes pour le non-respect du confinement.
Depuis le 8 janvier, donc environ une quarantaine d'amendes, je pense. On n'a pas fait le compte exact, mais on n'en est pas loin. Et donc c'est des amendes pour non-respect du couvre-feu, alors que on est muni d'attestations dérogatoires, d'un ordre de mission par l'association, et que le ministère du Logement avait fait un communiqué de presse qui stipulait que les maraudes pourraient continuer d'être mises en place pour aider les gens, en fait. Et donc c'est aussi un moyen, je pense, pour les forces de l'ordre de nous mettre encore plus la pression et d'éviter qu'on monte en maraude, en fait. Parce que c'est vrai que quand on est à la troisième amende, ça fait un peu réfléchir. Ça commence à faire cher, ça peut être une convocation au tribunal. Et donc voilà, là on est en train de travailler là-dessus pour demander la levée des amendes en fait. Mais je pense que de leur part, c'est un bon moyen de pression et qu'ils se sont dit qu'ils allaient tous nous aligner pour éviter qu'on revienne en maraude, je pense. Moi, j'ai jamais été emmenée à la PAF pour l'instant. mais ouais, il y a eu pas mal d'arrestations et des auditions libres aussi.
Régulièrement, là, donc là on en est au 3 plus 4 plus 2 plus 2 plus. Bon, bref, la liste continue. Donc de personnes qui se font attraper dans le cadre de maraudes et qui sont emmenées dans les tribunaux pour de l'aide à l'entrée. Donc ça, c'est quand même quelque chose aussi qui existe depuis le début des maraudes et qui voilà, régulièrement tombe de manière complètement aléatoire sur des personnes du collectif. Donc là, c'est un cran un peu, voilà, un petit peu au-dessus dans la répression. C'est presque, il y a presque ce truc-là qu'ils essayent de nous tenir responsables de situations de précarité dans laquelle les gens se retrouvent en montagne en disant nous menons des opérations de mise à l'abri via la police. Toutes les personnes qui sont en maraude et qui aident les personnes côté français à s'en sortir physiquement, on est considéré comme des personnes qui encouragent le passage des gens. Donc, ce serait presque de notre faute s'il y avait des gens qui se retrouvaient en situation d'urgence en montagne.
Même parfois, une certaine culpabilisation aussi. Ils nous disent qu'on n'aide pas les gens, que c'est nous qui les mettons en danger, alors que... Bah... Je pense pas qu'on mette les gens en danger, étant donné qu'on va les récupérer dans la neige des nuits où il peut faire moins 20. Alors qu'en fait, ce qui les met en danger, c'est la répression de la part des forces de l'ordre, dans le sens où si les gens empruntent des chemins qui peuvent être aussi dangereux, c'est pour se cacher de la police. Et s'ils sont attrapés, en fait, tout simplement, ils vont les soi-disant mettre à l'abri, comme ils disent. Mais en fait, ils vont les garder à la PAF 4 heures, ils vont les renvoyer en Italie, et c'est des gens qui vont... reprendre les mêmes risques deux jours plus tard. Donc c'est pas de la mise à l'abri en fait, parce que juste ils décalent le problème dans le temps, et si les gens prennent des chemins aussi dangereux, c'est pour se cacher de la police, et c'est à cause de la répression, et c'est ça qui les met vraiment en danger.
On assiste en permanence à des situations de chasse à l'homme qui sont en plus de ça illégales, c'est-à-dire qu'on ne demande même pas aux personnes est-ce qu'elles ont déjà fait une demande d'asile, si oui dans quel pays, etc. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas le respect des premières lois sur les demandes d'asile, etc. C'est-à-dire que les personnes sont arrêtées, toutes si possible, par les forces de l'ordre. On a même vu, là, ces derniers jours, un hélicoptère de secours en montagne interpeller une famille sur des pistes de ski. Et au lieu de les emmener à l'hôpital, c'est quand même une situation de secours en montagne. N'importe quelle personne blanche française qui serait secourue dans une montagne serait emmenée à l'hôpital en urgence. Et non, ils n'ont rien trouvé de mieux à faire que d'emmener ces personnes à la PAF. PAF de Montgenèvre, où il n'y a aucun, ni médecin, ni infirmier, ni qui que ce soit comme personne soignante. Et ils ont arrêté ces personnes, quoi. Donc c'est pas du tout de la mise à l'abri. Surtout que eux disent que les personnes... qui sont récupérés le sont volontairement. Sont volontairement récupérés par la police. Les personnes ne sont pas du tout mises à l'abri, elles sont entassées dans une espèce de garde à vue pourrie, un mix entre une garde à vue et une espèce de préfabriqué. Voilà, ça arrive régulièrement. On assiste à des arrestations de personnes parmi lesquelles il y a des fois des bébés de une semaine, deux semaines, un mois. C'est juste scandaleux, quoi.
Vous êtes toujours sur Radio Canu, et c'est toujours le Canu Info du lundi 1er février. Vous venez d'écouter un reportage à la frontière, à Briançon, la frontière franco-italienne, sur les maraudeurs et maraudeuses qui viennent en aide difficilement aux personnes qui tentent de passer la frontière.
Et on voulait aussi revenir sur l'opération policière qui avait eu lieu rue Frédéric Fès à Villeurbanne il y a 3 semaines, et dans le but d'expulser des habitantes et des habitants d'une habitation qui était squattée depuis déjà quelques jours. Le groupe de personnes qui avaient participé à cette ouverture, qui s'est pris une amende et qui ont fini en garde à vue, ont publié un communiqué qui s'appelle « Attention aux chiens de garde du capital immobilier » qui sera... disponible très rapidement sur vos meilleurs sites militants, et on voulait vous en lire juste un petit passage. Nous dénonçons cette expulsion illégale au vu des preuves de l'occupation et de la trêve hivernale, quand 300 000 personnes sont sans logement et que l'INSEE dénombre 3 millions de logements vides, ainsi que le dispositif exagéré et le traitement qui en a suivi, qui semble être fait pour terroriser et décourager les initiatives de solidarité. Nous invitons les institutions élues à prendre position et à porter plainte contre la préfecture. Nous appelons à la réquisition des logements vides et à la lutte contre la gentrification urbaine. Un toit pour tous.
Et nous arrivons donc à la fin de l'émission.
Avec un traditionnel agenda. Et une semaine très chargée qui commencera jeudi à 11h pour une manifestation interprofessionnelle dont le départ aura lieu
à la manufacture des tabacs.
Et l'arrivée à...
Bellecourt.
Et oui.
Ah oui.
Et voilà, donc on s'y retrouve jeudi à 11h.
Et puis sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Canu Info. Avec grand plaisir.
Et on vous dit donc à la semaine prochaine.
Et à jeudi, avant, dans la rue.
Mmh. Bah, jeudi, on se dira à la semaine prochaine. Jeudi alors.
Remets les bandes, continue, vas-y.